micro. On m'entend bien. Bonjour tout le monde. Vous êtes en forme, oui ou non? Oui, il y en a 24 qui disent qu'ils sont en forme. Les autres n'ont pas répondu. Ça va venir un petit peu plus tard. Vous savez que ce matin, on aurait pu avoir un message tenant compte de l'actualité présente et présenter plusieurs signes de Matthieu 24 en ce qui concerne tout ce qui se passe sur notre planète actuellement. Les guerres, les révolutions, les famines, les épidémies, les tremblements de terre, les persécutions, les trahisons, la séduction, le terrorisme. Tous des événements qu'on trouve dans Matthieu 24 et qui nous dit au verset 8, et tous ces événements sont le commencement des douleurs de l'enfantement. Un bon sujet. On aurait pu avoir ça ce matin comme sujet. Mais pour faire suite à l'enseignement donné depuis quelques semaines, on va se diriger vers un autre sujet qui est aussi d'actualité. Un sujet important pour le futur de notre Église, pour ce qui concerne, pour ce faire, nous allons regarder, ensemble le comportement des premiers chrétiens. Le comportement des premiers chrétiens. Et pour ça, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Actes des Apôtres, chapitre 7, s'il vous plaît. Actes des Apôtres, chapitre 7. Une question pour vous ce matin. Une question importante pour chacun de vous qui êtes présents ici dans cette salle. Lorsque quelqu'un vous demande « Quelle est votre religion? » Qu'est-ce que vous répondez? Il n'a pas? Il n'a pas de religion. Ben, y en a qui disent « Moi, je suis catholique. » D'autres disent « Je suis protestant. » « Je suis pentecôtiste. » « Je suis mennonite. » « Baptiste. » « Chrétien évangélique. » Qu'est-ce que vous répondez quand quelqu'un vous demande qui vous êtes? Comment est-ce qu'on appelait les premiers chrétiens? Comment est-ce qu'on appelait les premiers chrétiens? Ceux qui se disaient croyants, nés de nouveau. Ceux qui étaient devenus des témoins fidèles pour le Seigneur. Vous savez que le chapitre 7 des Actes des Apôtres nous relate le dernier message d'Étienne. Si on va avoir un résumé de l'Ancien Testament, on lit le chapitre 7 des Actes des Apôtres et on a un résumé de l'Ancien Testament. Et Étienne avait donné ce message-là. Et on ne lira pas tout le chapitre, mais on va aller vers la fin, un peu vers la conclusion, à partir du verset 52. Chapitre 7, verset 52. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris. Ils se bouchant les oreilles, ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons, et il arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Le chapitre 8, on voit la conversion de l'Éthiopien. Et la suite de ce message-là, on le retrouve au chapitre 9. Au chapitre 9, on voit la suite. Saul qui était là, Saul qui a entendu tout le message d'Étienne depuis le début. Au chapitre 9, on voit « Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes et femmes, ils amènent liés à Jérusalem. » Comment est-ce qu'on appelait les premiers chrétiens? Comment? Les partisans de la nouvelle doctrine. Vous vous êtes jamais fait appeler de même, là? Hein? Les partisans de la nouvelle doctrine. Le mot doctrine dans l'original est hados. Et le mot hados nous parle de voie, de chemin, de sentier, de chemin. Métaphoriquement, c'est une manière de se conduire, une manière de penser. Lorsqu'on lit dans Jean 14, 6, il dit « Je suis le chemin ». C'est le même mot qu'on retrouve là, qui nous parle de chemin, de manière de se conduire, de manière de penser. Et on a différentes versions qui vont nous dire « adeptes de la voie », quelques-uns qui fussent de la voie. Hommes et femmes qui suivaient le chemin du Seigneur. Hommes et femmes de la secte. Vous savez qu'au début de l'Église, les croyants étaient connus sous ce titre qui parle de chemin, de voie, de conduite. Non pas d'une position ni d'une profession, mais d'une manière de se conduire. C'est comme ça que les chrétiens avaient été reconnus. Et c'est un thème très particulier au livre des Actes. On ne trouve pas ça ailleurs. Et je vous inviterai à tourner au chapitre 16, toujours dans les Actes des Apôtres, chapitre 16. Et on va voir à travers les Actes des Apôtres, au moins à 7 reprises, il nous est parlé que les chrétiens étaient reconnus des personnes qui marchent, des personnes qui réfléchissent différemment. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui devinait en procurant grand profit à ses maîtres vint au-devant de nous. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. Ils vous annoncent la manière de marcher. Ils vous annoncent une nouvelle façon de penser. » C'est ce que ça voulait dire. Chapitre 18, verset 24. Paul qui est en train de donner son témoignage, je suis juif nommé Apollos, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent, versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Et fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu, la manière de marcher, la manière de penser, la manière de se conduire. Chapitre 19, verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue et il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur. Paul a loué un appartement, puis une école, puis a commencé à enseigner à cette école-là. Quatrièmement, au verset 23, Acte 19, verset 23. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Chapitre 22. Chapitre 22, verset 3. Paul dit, « Je suis juif, né à Tarse, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel. » dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de... comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Cette doctrine, comme vous disiez tantôt, c'est le même mot « odas », cette manière de vivre, cet enseignement, cette discipline, cette route, ce chemin. Chapitre 22, versets 3 et 4, on vient de lire, on s'en va au chapitre 24. Chapitre 24, verset 14. Paul qui est en train de donner son témoignage devant le roi Félix. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte. Verset 22. Félix, qui était parfaitement au courant de ce qui concerne cette doctrine, cette voie, ce chemin. Voyez-vous, au début, l'Église, les croyants étaient connus sous ce titre qui parle de chemin, de voie, de conduite. Se faire appeler chrétien, c'était pas un honneur à l'époque. Vous savez que des ennemis avaient commencé à employer ce nom, tout d'abord Antioche, en l'an 43 après Jésus-Christ. On lit que ce fut Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Et c'était plutôt un terme de mépris, parce que lui, il dit croire à Jésus-Christ, celui qui a été crucifié sur la croix à Jérusalem parmi tous les malfaiteurs. Puis il pense qu'il est ressuscité, puis il croit à ça. Alors, on les traitait, c'est un petit Christos. On disait comme ça, c'est un petit Christos. Ça veut dire qu'ils croient à ça. C'est comme ça qu'on a commencé à les appeler chrétiens. Des personnes qui croient à quelqu'un qui a été crucifié sur la croix et qui se dit ressuscité. Est-ce que c'est vrai? On a sorti toutes sortes de théories à ce niveau-là. Il y en a qui ont dit, oui, c'est vrai que Jésus, il y a un Jésus qui est mort à la croix. C'est vrai. Mais ils disent qu'il est mort. Mais est-ce qu'il est vraiment mort ou s'il a perdu connaissance? Alors, il y a une théorie qui a été véhiculée à ce moment-là, disant qu'il avait perdu connaissance, puis on l'a emmené dans le tombeau, et la fraîche du tombeau l'a réanimé, puis il est sorti, puis il s'est en allé. Puis on l'a vu marcher dans la ville. D'autres ont dit que c'était son frère jumeau qui venait d'Égypte qui s'était présenté. Puis il y a eu toutes sortes de théories qui se sont présentées à ce niveau-là pour nier la résurrection de Jésus-Christ. Alors, un chrétien, quelqu'un qui était vraiment né de nouveau et qui disait croire à Jésus-Christ, il faisait rire de lui. Et les gens disaient, regardez. Et il dit croire à ça. On ne l'a jamais vu ressusciter. Vous savez que le terme chrétien, ce n'était pas très populaire. On le voit seulement trois fois dans le Nouveau Testament. Dans Actes 11, 26, on le retrouve dans Actes 26 au verset 28, lorsque Paul témoigne devant Agrippa 2, et dans l'Épître de Pierre, quand il dit que c'est si quelqu'un souffre comme chrétien. Aujourd'hui, il se dit chrétien. Ça veut presque rien dire. Mais quand tu dis « je suis un adepte de la voie, je suis le chemin du Seigneur », ça implique que tu es en train de vivre une vie différente de ce que tu vivais avant. Ça implique que tu es en train de vivre une vie marquée, une vie qui a vraiment eu un changement, une vie complètement différente. Mais qu'est-ce qui a amené les premiers chrétiens à vivre une vie tellement différente de ce qu'ils vivaient avant? Qu'est-ce qui les a amenés à ça? À vouloir faire rire d'eux autres? Non, c'est parce qu'ils avaient reconnu qu'ils étaient sur une mauvaise voie, qui était sur un mauvais chemin, puis ont décidé de changer de direction. J'ai rencontré quelqu'un, à un moment donné, au centre d'achat. Ça pourrait se passer ici, là, quelque part. Ça pourrait être votre voisin, maintenant. Un de vos voisins avec qui vous avez un bon contact. Puis, pour une raison quelconque, que vous avez eu affaire à Montréal, puis là, vous repartez, vous êtes sur la route de retour, puis en revenant, bien souvent, on arrête à Berthier, puis on arrête chez Tim Horton, bien oui, faut arrêter chez Tim Horton, on arrête à Berthier. Vous arrêtez chez Tim Horton, vous allez là, Vous voyez arriver votre voisin. « Hey, t'en vas où, toi? »« Ah, je m'en vais à Québec. »« Ah bon? T'en vas à Québec, t'arrives de où? »« J'arrive de chez nous. »« Ah bon? T'arrives de chez vous? »« Montréal est par là, Québec est par là. »« T'arrives de chez vous, puis tu t'en vas à Québec. » »« Qu'est-ce que vous allez faire avec? » Je vais sortir une carte, commencer à lui expliquer. Quand il va réaliser qu'il n'est pas sur la bonne route, qu'est-ce qu'il va faire? C'est exactement ce que les premiers chrétiens ont fait. Puis c'est exactement ce qu'on a fait. C'est qu'on marchait dans une direction, puis à un moment donné, quelqu'un est venu nous dire, « Hey, t'es pas sur la bonne voie, tu t'en vas vers la voie de la perdition, tu t'en vas vers l'éternité loin de Dieu. » Moi, quand j'ai réalisé ça, j'ai fait, « C'est pas ça qu'on fait. » Puis là, on voit Jésus-Christ qui a payé la dette de nos péchés, on l'accepte comme sauveur personnel, puis on décide de marcher dans cette voie-là. Et c'est exactement ce que les premiers chrétiens ont fait. Ils ont arrêté de marcher dans une direction, puis ils ont pris une autre direction. Et c'est pour ça que les gens les appelaient les partisans de la voie. Parce que c'est des gens qui ne marchent plus comme avant. Puis c'était tellement évident qu'on les voit, regarde, il y en a un là, puis il y en a un là, puis ils marchent. C'est des partisans de la voie, des partisans de cette nouvelle doctrine, nouvelle façon de penser, nouvelle façon d'agir. Ils sont différents de ce qu'ils étaient avant. Moi, lorsque j'ai accepté de suivre le Seigneur, on m'a souvent dit, « T'as changé de religion. » Non, je n'ai pas changé de religion, j'ai changé de direction. J'ai accepté de suivre le chemin du Seigneur. J'ai cru à ce que lui dit. La religion dit « fait », mais Jésus dit « c'est fait ». Et j'ai accepté ce fait. Dans le psaume 1er, nous lisons « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des pécheurs mène à la ruine. » Deux chemins, deux manières de vivre. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. On a deux options, être pardonné ou être puni. Je ne sais pas qui vous êtes ici ce matin, s'il y a quelqu'un qui n'a jamais entendu ce message de la grâce de Dieu, mais si vous n'avez jamais réalisé que vous êtes sur un chemin de perdition et que vous n'êtes jamais fait une position de repentance, ou abandon, appelez-les comme vous voulez, changez de direction, aujourd'hui, c'est le temps de le faire. Êtes toujours là? Vous qui êtes sauvés ce matin, qui vous dites de né de nouveau, êtes-vous arrêté sur la route ou avez-vous déjà arrêté sur la route, sur votre chemin, ou êtes-vous toujours en marche? Ce matin, ceux qui sont ici sont en marche, en tout cas, en marche physique, je ne sais pas si spirituellement ça marche très bien. Vous savez, on entend souvent des chrétiens dire, « Bon, lui, ça fait, il a été 10 ans sans suivre le Seigneur. Là, il revient, mais il est boiteux. » On entend toutes sortes d'histoires là-dessus. Moi, je n'ai jamais arrêté. J'ai toujours été fidèle aux réunions, je n'ai jamais arrêté. Il y en a comme ça, on entend ça. Moi, je n'étais pas parti, je ne faisais pas partie de ceux qui se pétaient bretelles, comme on pourrait dire, parce que je ne me reconnais pas comme le meilleur du groupe. Mais le Seigneur m'a mis au test l'année passée. Vous savez, le mercredi soir, mais depuis quelques années, je participe à la cellule de prière à Shawinigan, à l'Assemblée de Shawinigan. Bon. Puis à Shawinigan, vous savez que 80% de cette église-là, ils sont arrivés là au mois de juillet. Alors, dernière semaine de juillet, alors que tout le monde va vivre là, moi, je me présente le mercredi à 7h, j'arrive là, puis whoop, on était 5 personnes. Puis parmi les 5, pas un avait l'attelé. On est assis dans les marches, puis on attend, il était 5, 10, bon, bien, regarde, on va se faire une petite réunion ici. Fait qu'on commence à partager, il y en a un qui partage un verset, puis là, il dit, J'aimerais ça qu'on prie pour moi. Moi, j'ai été longtemps sans suivre le Seigneur, puis là, je reviens, puis j'ai de la misère. Puis, l'autre à côté, « Ah, moi aussi, j'ai été 12 ans sans suivre le Seigneur, puis moi aussi, c'est vrai, c'est difficile. » L'autre à côté a dit, « Moi aussi, j'ai été 20 ans sans suivre le Seigneur, puis aujourd'hui. » Et l'autre à côté a dit, « Il y a juste Jean qui a arrêté. » Et tu t'es arrêté toi aussi? Ah ouais, j'ai été une dizaine d'années sans suivre le Seigneur. Oh, mais voilà, le seul et unique qui a arrêté. Une fraction de seconde, le Seigneur dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter à son cœur, l'a déjà commis l'adultère en son cœur. Il dit, quiconque a déjà pensé à arrêter d'aller aux réunions, c'est comme si tu avais déjà arrêté. Tu es aussi coupable que les autres. J'ai déjà pensé d'arrêter à vous penser à ça, là? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà pensé d'arrêter? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà arrêté? Levez pas la main, là. Non, mais on est tous pareils. On a tous pensé à ça. Puis des fois, on l'a peut-être mis en action. On est aussi coupables que les autres. Vous savez qu'au début... Moi, je me rappelle quand je me suis converti en 1974, il y en a encore quelques-uns qui sont là ce matin. Alors, quand j'arrivais là, moi, puis, on vit dans ce monde-là, puis là, on arrive dans l'assemblée, puis tout le monde n'entend pas un sac. C'était-tu merveilleux? Il dit, waouh, hey, on est rentré dans un groupe. Hey, c'est presque le ciel ici ce matin. Là. Je suis tellement content. Bon, ça a duré peut-être un an. D'un coup, il avait, ouais. Il y en avait une couple qui commençait à avoir des réactions un petit peu différentes. Et un petit peu plus tard, ça fait « Wouah! Quelle gang que c'est ça! » C'est pas ça? « Wow! Ouais! Wouah! » Ça, c'est la réalité. Puis ça dépend de la façon dont on marche. Vous tournez, s'il vous plaît, dans l'Épître aux Éphésiens. Éphésiens. Vous savez que marcher, c'est un verbe clé dans la vie d'un croyant. Et ça dépend de la façon dont on marche. C'est comme ça que les gens nous regardent. C'est comme ça que les gens ont reconnu les premiers chrétiens, la façon dont ils marchaient. La façon dont ils marchaient. Le verbe « marcher » se retrouve 93 fois dans le Nouveau Testament, et c'est un verbe clé de l'Épître aux Éphésiens. Au chapitre 4, le verset 1er, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Verset 3, « Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Nous devons apprendre à marcher dans l'unité. Retenez ça. Marchez dans l'unité. Verset 17. Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme on marchait autrefois. Je ne dois plus marcher comme autrefois. Au chapitre 4, verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit et dans votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi... Verset 25, renoncez au mensonge. Verset 28, soyez honnête. Verset 29, ayez des paroles encourageantes. On doit apprendre à marcher dans la pureté, à marcher de la bonne manière. Ne plus compter de mensonges comme avant. C'est comme ça que les gens vont nous reconnaître. Si on a une vie honnête, ils vont reconnaître, ah, lui... Non, lui, quand on essaie, il fait du noir, là. Non, il ne veut pas patate. Il veut brune, il ne veut pas ça. Ça ne marche pas. Lui, est-ce que ça vous arrive, vous autres, de compter des mensonges? Non, pas non, pas non. Des demi-mensonges? Non plus. Exagérés? Peut-être. L'exagération, c'est le mensonge des chrétiens. Vous savez, quand un mensonge, on se fait toujours attraper avec ça. Parce que quand tu le racontes une deuxième fois, tu ne le comptes pas de la même manière, puis la troisième fois, puis à un moment donné, tu le racontes d'une autre manière. Moi, je détecte les personnes qui sont menteuses, là, même parmi les chrétiens, puis ça ne prend pas 20 des fois. Deux, trois fois, tu parles avec eux autres, tu racontes une histoire, puis hop, il ne l'a pas compté comme la première fois. La troisième fois, hop, il y a un petit quelque chose de différent. Fait là, tu viens discerner, le gars, regarde, c'est un menteur. Il ne dit jamais la vérité. Il y a une fois, il y a quatre gars qui étaient supposés de passer un examen un lundi matin. Puis, là, ils ont voulu fêter ça. Hein. Au lieu de fêter après, ils ont fêté avant. Fait que quand ils sont arrivés le lundi matin, les gars, ils n'étaient pas trop en forme. Fait que, ils ont dit, regarde, on va arriver en retard, puis on va dire au prof qu'on n'a pas été capable de se rendre. On va lui demander si on pourra recommencer demain matin. OK. Il s'en va, les gars, puis il arrive là, puis il demande au prof, est-ce qu'on pourrait passer notre test demain? Parce qu'en s'en venant, ils ont fait du covoiturage, puis on a fait un flat. OK? Oh, pas de problème, vous venez demain matin à 8 heures. Mais les gars arrivent, lui, ils ont étudié comme il faut, ils arrivent le lendemain matin à 8 heures, ils se présentent, le prof, il en place un dans chaque classe, dans quatre classes différentes. Deux questions. Première question vaut 5 points. Chacun lit dans son coin, ils trouvent ça très facile. Ils ont chacun 5 points. Deuxième question. Lequel des quatre pneus de votre voiture a crevé? Ils ont-tu passé le test, vous pensez? L'honnêteté, toujours dire la vérité, ne dérobe plus. On doit faire attention à nos paroles. Nos paroles doivent édifier et non attrister les autres. Au chapitre 5, on voit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour. » Au verset 8, « Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Chapitre 5, les versets 15 à 17, on doit apprendre à marcher soigneusement. Soigneusement, ça veut dire avec circonspection, ce qui veut dire avec discernement, avec réflexion, pas comme des personnes irréfléchies. Il faut savoir comment réagir. Il y a une manière de marcher soigneusement. Un autre point qu'on peut revoir à partir du chapitre 5, 18 à 6, 9, c'est marcher dans l'harmonie. Dans l'harmonie, que ce soit homme-femme, que ce soit parent-enfant, ou que ce soit patron et employé, on doit apprendre à marcher en harmonie. Voyez-vous, marcher, progresser, régler sa conduite, être en chemin, c'est un refrain constant dans le Nouveau Testament. Est-ce que les gens que vous côtoyez peuvent dire, ces femmes-là, ces hommes-là, sont des serviteurs de Dieu? Ils ne sont plus les mêmes. Ils sont vraiment différents. Ils ne marchent plus comme avant. Ils ne parlent plus comme avant. Nous devons apprendre à marcher et à marcher de la bonne manière. Vous savez pourquoi? Une des raisons, c'est parce que nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ, puis on va avoir à rendre compte comment on va avoir marché. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Nous aurons à rendre compte de la manière dont nous aurons marché, c'est pourquoi nous devons nous être invités à marcher de la bonne manière. C'est quoi le verbe clé? Vous allez être mis au défi bientôt. Vous allez devoir passer le test bientôt. Bientôt, on va rentrer dans notre nouveau bâtiment. Il faut faire attention. La stratégie de Satan est de nous amener à marcher comme autrefois, de la mauvaise manière. Alors que Dieu, lui, le but, c'est l'unité. Et c'est pourquoi nous devons marcher dans l'unité. Ne plus marcher comme autrefois, marcher en pureté, marcher dans l'amour marcher comme des enfants de lumière, marcher soigneusement et marcher en harmonie. Êtes-vous prêt à relever le défi? Préparez-vous, en 2016, Satan va attaquer à nouveau. Marquez ça dans vos bibles, puis quand ça commence à allumer, là, relisez ça. Seigneur, il faut que j'apprenne à marcher et à marcher de la bonne manière. Prions. Seigneur, on veut te dire merci. Merci pour ta parole qui nous encourage ce matin à régler notre conduite. On a apprendre à marcher de la bonne manière. Au début, peut-être qu'on a parti de la bonne manière, puis à un moment donné, on a fait des faux pas. On en fait encore. Aide-nous, Seigneur, à marcher comme il faut. À marcher d'une telle façon que les gens autour puissent dire comme les premiers chrétiens, ces gens-là ne marchent plus comme avant. Ils sont différents. Seigneur, c'est une grâce qu'on te demande, afin que ton nom soit glorifié. Et on t'en prie au nom du Seigneur Jésus. Amen.